Eh bien, ça y est, c'est la rentrée, mes enfants. Je suis très heureux de vous retrouver en direct sur l'antenne de Graphite, c'est Biotine, tous les samedis entre 12h et 13h. Et je suis très fier de vous retrouver, très fier d'inaugurer un petit peu ce nouveau studio de Graphite. Nouveau mobilier, nouvelle console, nouveau bouton. Là, j'ai eu un petit cours particulier. J'espère que cette émission va se passer très bien, mais il n'y a pas de raison. Je crois en ma bonne étoile. Je suis très heureux de pouvoir partager cette émission, une nouvelle saison. Une saison 2021-2022, l'actualité scientifique, technique, médicale, technologique, spatiale. C'est ce que l'on va évoquer dans cette émission tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. C'est la reprise des émissions, tout doucement, mais voilà, je me suis dit que début septembre, c'était le moment pour moi de reprendre l'antenne parce que franchement, on a eu un été catastrophique en termes d'informations scientifiques. Je ne sais plus ce qu'il faut faire au bout d'un moment. J'ai l'impression qu'il va falloir que je monopolise tous les médias du monde entier pour essayer de canaliser un petit peu toutes ces inepties, toutes ces désinformations que l'on a parfois pour soutenir certaines, certaines ambitions politiques. Enfin, c'est vraiment affligeant ce qui s'est passé cet été. Donc il va falloir qu'on remette un petit peu les choses à plat. Et cette émission Biotine, tous les samedis entre 12h et 13h, a l'ambition justement de parler de l'actualité scientifique, mais de vous donner une information brute, une information vulgarisée pour que vous puissiez un petit peu comprendre les éléments de cette information. Mais après, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Et c'est ça qui est un petit peu troublant en ce moment, c'est que l'information, on la donne de façon un peu partielle. Et par contre, les commentaires, les opinions, les avis de chacun, ça, on les balance. Et donc, au bout d'un moment, on est submergé par d'informations contradictoires, par des experts de tout et de n'importe quoi, par certains politiques qui en rajoutent, par des décisions gouvernementales qui sont parfois aussi un peu ambiguës ou pas nécessairement claires. C'est très difficile pour vous, pour nous, si citoyen lambda, de pouvoir essayer d'avoir une vision assez claire de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Je vous rappelle ce que je nous avais souhaité en cette année 2021, en début d'année. Bien sûr, bonne année, bonne santé et également un peu de bon sens. Eh bien, le bon sens, c'est un petit peu ce qu'il va falloir reprendre dans cette émission, notamment essayer d'avoir un petit peu la possibilité de, je sais pas, de prendre du recul sur tout ce qui va se passer. Donc voilà, c'est la reprise de cette émission Biotine. On va parler bien sûr de l'actualité de la crise sanitaire, mais on va parler d'espace également. On va parler de la technologie avec pas mal de choses qui se sont passées pendant ces deux mois d'été. On va parler bien sûr du réchauffement climatique parce que ça, on en parle de plus en plus et c'est important. Mais je voulais démarrer cette émission avec cette partie de Cluedo géant qu'on avait engagée il y a déjà 3 ans. On s'en souvient, je suis en train de chercher mes feuilles. Dans ce nouveau studio, je n'ai pas mes repères en fait, c'est pour ça. Je vais y arriver. J'ai retrouvé mes feuilles pour cet article. On avait évoqué cette partie de Cluedo géant. C'était il y a déjà 3 ans, c'était en août 2018. Les astronautes qui sont à bord de la Station Spatiale Internationale, ils avaient découvert il y a 3 ans qu'un trou avait été percé à l'intérieur d'une capsule Soyouz. La capsule était amarrée directement à la station. Et donc on avait découvert ce trou qui était vraiment au niveau de la capsule Soyouz, et c'était un trou qui avait été fait de façon volontaire. Et à partir de là, il y a eu donc cette partie de Cluedo géant, c'est-à-dire que c'était pas savoir qui avait assassiné le colonel Moutarde avec un chandelier, mais c'était qui avait fait le trou dans cette capsule Soyouz au niveau de la Station Spatiale Internationale. Et donc il y a 3 ans, c'était un petit peu l'événement, et donc on avait pas mal de suggestions qui avaient été énoncées à l'époque. Et depuis après, eh bien, un petit peu silence radio, c'est-à-dire qu'on avait eu très très peu d'informations parce que ça devenait un peu polémique, parce qu'il y avait derrière quand même une orientation un petit peu géopolitique de la chose. Hein. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait des Américains, il y avait des Russes, je crois qu'il y avait des Allemands également dans cette station spatiale internationale. Alors, bon sang, on commençait un petit peu à avoir une espèce de nouvelle guerre froide, mais au niveau de la station spatiale internationale, c'était finalement assez, assez classe. Eh bien, on en sait un petit peu plus suite à cet article que nous relaie notamment Futura Science, et qui nous explique qu'il y avait, en septembre 2019, donc un an après, une commission d'enquête russe qui ont découvert les causes et l'origine de ce trou, mais qui avait décidé, donc depuis 2 ans, de ne donner aucune explication et de ne pas rendre publiques ses conclusions. Donc, on n'a rien su. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé, parce qu'il n'y avait aucune information. Et il s'avère que depuis cette date, eh bien, il n'y avait aucune information. Alors, c'était le blackout total. Non, 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 on n'en parle pas. Il ne s'est rien passé. Il y a quelques jours, c'est en août, il y a un haut responsable de Roscosmos. Roscosmos, c'est l'agence spatiale russe. Eh bien, il y a un haut responsable qui s'est entretenu de façon anonyme, évidemment, avec un journaliste russe au sujet de nombreuses questions qui sont liées justement aux critiques auxquelles doit faire face l'agence spatiale russe, et notamment ces différends qu'elle peut avoir avec l'agence spatiale américaine, la NASA, bien évidemment. Et concernant ce fameux trou qui avait été découvert dans la carlingue du Soyouz, eh bien, ce haut responsable tient à rappeler que ce type de dommage n'aurait pas pu se produire sur Terre parce que la capsule, elle est testée dans une chambre à vide avant son lancement. Donc, s'il y avait eu un trou, on aurait su qu'il y aurait eu des capteurs de pression, tout ça qui aurait détecté. Donc, on aurait su que c'était sur Terre. Sauf que là, il n'y a eu aucun. On n'a rien détecté. Donc, on en conclut que ça s'est bien passé dans l'espace. Et pour expliquer la présence de ce trou, ce haut fonctionnaire de l'agence spatiale russe, qui est anonyme, il met clairement en cause l'astronaute américaine Serena Maria Aunun-Chancellor, parce que selon lui, elle aurait délibérément saboté le Soyouz pour pouvoir rentrer plus tôt sur Terre. C'est vrai qu'elle s'est dit, tiens, je vais percer le Soyouz, grosse panique, et comme ça, tout le monde va revenir sur Terre. Bon, ça ne s'est pas fait comme ça. Mais en tout cas, pour essayer d'expliquer le geste de l'astronaute de la NASA, eh bien, ce haut responsable souligne que l'Américaine a souffert d'un problème de santé lors de son séjour à bord de la Station spatiale internationale, et c'est ce qui l'aurait poussé un petit peu à faire ce geste. Alors, c'est un peu étonnant ce genre d'information. Bon, déjà, il est anonyme, donc évidemment, il faut prendre avec beaucoup de pincettes ce genre d'information. Il n'empêche que ce haut responsable demeure quand même bien informé, c'est-à-dire que cette fameuse astronaute américaine a bien été malade quand elle était en orbite dans la Station spatiale internationale, et dès son retour sur Terre, elle a été traitée pour une thrombose veineuse profonde dans un genre de caillot sanguin dans la veine jugulaire. Et ce qui étonne dans les déclarations de ce responsable, c'est qu'il soit aussi bien renseigné. Alors, il faut savoir en fait que la NASA, donc l'agence spatiale américaine, ne rend pas public les problèmes de santé de ses astronautes. Donc, du coup, le Russe, s'il était au courant, c'est qu'il doit être vraiment haut placé. C'est pas uniquement des suggestions ou des présuppositions. La NASA peut rendre public un problème de santé ou une maladie, mais à des fins de recherche médicale, sans nommer la personne concernée. Donc là, on n'était pas du tout dans ce cas de figure. Bref, la NASA allait monter au front depuis quelques jours face à cette annonce, et pour défendre son astronaute, bien sûr, condamner ses attaques personnelles jugées sans fondement. Mais voilà, on aurait peut-être enfin réussi à trouver le coupable dans cette partie de Cluedo géant au sein de la Station spatiale internationale. C'était tout simplement une astronaute américaine qui voulait rentrer plus vite chez elle parce qu'elle était malade. Je sais pas vous, mais je trouve que c'est un peu dommage, en fait. L'épilogue de cette histoire est pas... c'est pas glorieux, qu'on aurait cru quelque chose d'un petit peu plus... un peu d'espionnage, hein, ou voir, je sais pas, quelque chose d'un peu surnaturel, mais non, c'était apparemment quelque chose d'assez... d'assez simple, ce qui permet aussi d'aborder le sujet également un petit peu de l'environnement psychologique de ces astronautes dans un environnement un petit peu confiné au sein d'une station spatiale internationale en orbite à plusieurs kilomètres, dizaines, centaines de kilomètres de la Terre. Donc effectivement, parfois, il y a des choses qu'on peut difficilement gérer. En tout cas, depuis 3 ans, on avait joué et peut-être qu'aujourd'hui, en ce 4 septembre 2021, on a peut-être enfin terminé cette partie de Cluedo géant. On va traiter l'actualité scientifique de cette émission juste après écouter un petit titre. Alors, ça va me permettre justement de pouvoir gérer tout seul comme un grand l'animation de cette émission. Et alors, dans la playlist, j'ai choisi des choses que je connaissais, par exemple Noir Désir, avec l'un de leurs titres récents. À tout de suite sur l'antenne de Graphite.
Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco n'y accostera. Aucun concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va, sinon toi. Aucun trolley ne me tiendra sur au perché. Aucun vapeur ne me fera fondre. Des escalators aux chariots ailés, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai allongé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus le verger. Et délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Aucun walala ne vaut le détour. Aucun astronef ne s'y attarde. Aucun navire n'y va, sinon toi. J'ai longé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les vergers. Et délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco n'y accostera. Aucun concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va. Ses méandres, je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus le verger, délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté.
Noir Désir avec Aucun Express sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h Biotine, l'émission d'actualité scientifique Tous les samedis, nous faisons un petit peu le point sur l'actualité au niveau science, technologique, médicale, spatiale. C'est la rentrée sur Graphite. Vous nous écoutez sur graphite.net, bien sûr, en direct ou en différé avec la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts de toutes les émissions. Vous nous écoutez aussi sur la bande FM 94.9. Pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise, la Somme également. Je suis très heureux de vous retrouver. On inaugure un nouveau studio avec une nouvelle console magnifique. J'ai même pas eu le temps de la prendre en photo. Il faut que je fasse ça tout à l'heure. Avec des boutons beaucoup plus simples et on espère justement une fluidité parfaite au niveau de l'émission. Je l'espère en tout cas. J'ai encore quelques réflexes à avoir, mais ça devrait le faire. Nous sommes le 4 septembre 2021 et c'est l'anniversaire de Google qui a été créé un 4 septembre 1900. 1998, naissance en 1901 de William Lyons, industriel britannique, et il est le fondateur du constructeur automobile Jaguar. Il est donc né un 4 septembre 1901. Et un décès, celui de Cassini. Il est décédé le 4 septembre 1784. C'est un cartographe et un astronome français. Alors Cassini reste un nom quand même assez connu au niveau... il est passé un petit peu à la postérité quand même, Cassini. Il a été élevé par son grand-oncle. Et Cassini montre très tôt des dons pour l'astronomie. Sa carrière scientifique, elle s'engage au moment des débats des cartésiens contre les partisans des théories de Newton, qui concernent ces débats la forme de la Terre. Et les travaux astronomiques de Cassini, on les retrouve dans les mémoires de l'Académie des sciences. Ces travaux, ils sont assez modestes, ils ne sont pas restés dans l'histoire des sciences, parce que Cassini va être avant tout un cartographe de grand talent. Sa carte de France, c'est un des classiques du genre. Il va corriger la méridienne qui passe par l'observatoire. Il sera chargé de la description géométrique de la France. Et donc, le fruit de tous ces travaux, ça va être une belle carte de France composée de 180 feuilles qui va être publiée au nom de l'Académie des sciences sur près de 50 ans, au XVIIIe siècle. Et ça va offrir la représentation la plus fidèle du pays. Cassini, son prénom était César François. Il ne pourra pas achever cette vaste entreprise. C'est son fils Jean-Dominique qui sera chargé de la terminer. Mais donc voilà, cartographe, astronome Cassini, décédé un 4 septembre 1784. Je voulais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pendant cet été. Il y a eu pas mal d'informations au niveau spatial. On va voir ça. Il y en a qui ont fait... Alors, je ne sais pas où est-ce que vous êtes partis, vous, en voyage, mais il y en a qui sont partis dans l'espace. Ils sont dit, tiens, ça change un petit peu. Eh bien, on va parler de ça. Mais je voulais revenir un petit peu sur ce que j'évoquais tout à l'heure en début d'émission, c'est-à-dire qu'on a quand même eu pas mal d'informations contradictoires au niveau de la situation sanitaire. Alors, on va plutôt parler du vaccin, parce que le côté passe sanitaire est plutôt une décision d'ordre politique, et on ne va pas parler politique dans cette émission, une décision politique avec, bien sûr, des débouchés d'un point de vue médical, bien sûr. Mais on va plutôt parler du vaccin. Et je voulais revenir sur une interview qui a eu lieu pendant l'été, c'était fin juillet, d'une infectiologue du CHU de Saint-Étienne qui s'appelle Elisabeth Botello-Nevers et qui justement voulait un petit peu essayer de revenir sur certaines désinformations qui subsistent encore. Les vaccins à ARN messager, c'est en clair Pfizer, Moderna, c'est ce qu'on a eu principalement en termes de vaccination en France. Ces vaccins à ARN messager contre la Covid-19 sont dangereux parce qu'on manque de recul. Eh bien, c'est faux. À un moment, il va falloir quand même avoir du bon sens, c'est ce que je vous ai dit. Et Elisabeth Botello-Nevers explique que ces vaccins sont, dans l'histoire de l'humanité et de la médecine, les médicaments qui ont été et qui sont encore, pour l'instant, les plus surveillés et les plus scrutés. Depuis le début, dit-elle, il y a une surveillance extrêmement rapprochée après l'administration de ces vaccins. Et pour ceux qui diront qu'on n'a pas de recul sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, il faut savoir que les vaccins, contrairement aux médicaments, ils ont un effet très court. C'est-à-dire qu'ils vont être injectés, mais ils ne vont pas persister très longtemps. Et leur but, c'est de déclencher une réponse immunitaire. Et derrière, ce n'est pas le vaccin qui reste en nous. De toute façon, comme c'est un vaccin ARN messager, l'ARN messager, il est dégradé très rapidement, donc on ne va pas conserver de l'ARN messager dans notre corps. Et donc, du coup, on n'est pas du tout dans l'idée qu'on a un manque de recul. D'ailleurs, je rajoute que la technologie de l'ARN messager, elle ne date pas de 2020. Elle a déjà une vingtaine d'années. Donc, ce n'est pas une technologie totalement inédite qu'on utilise. Ayons un petit peu, il faut quand même se dire qu'on ne va pas tester comme ça directement des choses dont on n'a pas de recul. On a déjà un recul d'une technologie qui a 20 ans d'ancienneté. Deuxième information qu'on écoute, c'est le vaccin contre la Covid-19 tue plus que le virus lui-même. Ça, on en écoute quand même des choses aussi un petit peu effrayantes. Alors, Elisabeth Botello-Nevers explique que, bien sûr, c'est faux. Il n'y a pas de décès qui sont rapportés de façon cataclysmique au vaccin. Et ça, c'est une évidence. Oui, effectivement, la campagne de vaccination en France, elle a démarré début janvier, fin décembre, on va dire début janvier d'une façon un petit peu plus importante. On n'a pas entendu une vague de décès due à ces vaccins. Ou alors, on va encore nous dire « Ah mais oui, mais on nous ment, on ne nous dit pas tout ». Non, il faut arrêter et avoir un petit peu raison gardée et se dire que finalement, non, ça n'a pas eu lieu, cette vague de mort due au vaccin. Elle rajoute qu'il peut y avoir bien sûr des situations exceptionnelles d'effets secondaires, très graves, mais ces situations sont très rares. Elle pense notamment aux thromboses avec le vaccin AstraZeneca, où il y a pu y avoir quelques décès, mais très très peu de toute façon. Et aujourd'hui, on connaît ces thromboses, on sait prendre en charge les malades. Donc elle explique, je ne dis pas qu'il n'y a eu aucun décès en lien avec le vaccin, mais il faut recentrer le problème. Aujourd'hui, on est dans une pandémie. Le Covid est encore bien présent et on a encore beaucoup trop de décès liés au Covid. Et pratiquement pas lié au vaccin. Donc, à un moment, il faut avoir, c'est un point de vue purement mathématique, tout ça. Toutes les sources sûres et sérieuses concordent sur le fait que même chez des gens qui n'ont pas de facteur de risque énorme, le risque de faire un événement grave, voire dans les cas extrêmes de décéder à cause du vaccin, est infime par rapport au risque de faire une forme grave ou de mourir du Covid-19. Je pense que là, l'information est assez claire. Autre chose concernant les femmes enceintes. On explique que les vaccins contre la Covid-19 augmentent les risques de fausses couches. Là encore, c'est faux. Elisabeth Botello-Nevers explique que de toute façon, il y a eu des études qui ont été menées aux États-Unis avec des chiffres énormes de femmes enceintes vaccinées. Elles ont été surveillées et il n'y a pas plus de fausses couches chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Donc ces études confirment justement que c'est une information fausse et que c'est encore, comment on dit, une fake news, bien sûr. Enfin, le vaccin contre la Covid-19 a été trouvé en quelques mois alors qu'on ne fait rien pour la recherche de vaccins contre le cancer et le sida. Alors donc dans cette interview qui a eu lieu sur France Bleu, Elisabeth Botello-Nevers explique que c'est faux. Alors elle a tout un argument. De toute façon, si vous êtes fidèle de cette émission Biotine, on a déjà parlé de toutes ces recherches qui existent actuellement de vaccins contre le cancer, de vaccins contre le virus du sida. La seule différence, elle explique, et c'est assez, là encore, principe du bon sens, on est dans une pandémie internationale qui fait que toute la population, si on reste uniquement en France, toute la population française est concernée. Donc quand vous faites une campagne de vaccin, vous allez faire une campagne de vaccin contre quasiment toute la population française. En ce qui concerne les cancers et certains types de cancers, fort heureusement bien sûr, toute la population française n'est pas concernée par le cancer en question. Donc la population concernée et donc qui sert de cible justement pour ce vaccin, cette population est totalement réduite, si bien qu'on n'est pas du tout sur des mêmes proportions, ce qui fait que la recherche, elle avance aussi quand il y a la possibilité de pouvoir avoir un panel assez large de personnes qui vont pouvoir participer à cette étude. Ce qui n'est pas le cas pour les cancers, justement, parce que les personnes sont beaucoup trop peu nombreuses, fort heureusement, bien sûr. Là, on parle de sujets quand même assez intimes, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, il faut arrêter de dire des conneries, enfin, excusez-moi de cette vulgarité, mais j'ai tellement été affligé par le comportement de certains pendant cet été qu'à un moment, il faut prendre un petit peu du recul par rapport aux choses. L'histoire de l'humanité a montré le bienfait des vaccins. Enfin, je veux dire, on ne va pas revenir sur l'histoire de la médecine et de ce qu'a pu apporter les vaccins. Arrêtons d'avoir cette vision totalement catastrophique, cataclysmique de cette campagne vaccinale. Les chiffres qui ont été communiqués par Santé publique France hier sont quand même assez éloquents. 114 773 décès du Covid depuis le début. C'est pas rien. On a d'ailleurs, et ça c'est un chiffre, 95 morts en 24 heures. On arrive à une situation telle que quand on a une centaine de morts tous les jours, on réagit même plus. Enfin, ça devient, on est dans une phase quand même assez effrayante. Il y a eu 6 800 000 cas confirmés et plus de 13 000 en 24 heures, ce qui quand même veut dire qu'il y a encore des contaminations qui existent. 48 700 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin en France. Et enfin, il y a 1035 admissions en soins critiques, dont 761 admissions en réanimation sur les 7 derniers jours. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc, bien sûr, gestes barrières, bien sûr, campagne vaccinale, bien sûr, bon sens, patience et raison gardée. On écoute un peu de musique et puis on va parler un petit peu d'espace pour ne pas plomber l'ambiance dès cette première émission. Mais je pense qu'il y a des moments où les choses devaient être dites et en tout cas, on devait un petit peu remettre les pendules à l'heure. Il est justement en termes de pendule 12h27, je crois. On va écouter un titre. Alors, on va écouter Les Ogres de Barbac avec Le Daron sur l'antenne de Graphite. J'appuie sur le bon bouton, bah, c'est bon. Et on se retrouve juste après pour continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique.
Il n'a pas réglé son horloge, toujours le cul entre deux chaises. Il ne sait jamais où il loge, il a 30 ans. D'âge mental 16, bon papa, mon père, celui que je n'ai pas beaucoup connu, celui qui est arrivé hier, qui part demain, bien entendu. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard, tu comprendras en attendant. Chante ta colère, il n'a pas choisi sa planète, pas choisi entre terre et lune, il n'a pas remboursé ses dettes et n'a jamais, jamais fait fortune. Mon papa, mon père, celui qu'on voit sur l'avenue, au bras de filles un peu vulgaires qui se promènent à moitié nues. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant. Chante ta colère, il dit quand je n'ai pas le moral, je vais me soigner dans les bars. Il dit plutôt que dormir mal, moi je préfère me coucher tard. Mon papa, mon père qui s'endort parfois dans la rue, bourré de vin, ivre de bière que les voisins ne saluent plus. Mon père, mon papa qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant. Chante ta colère, il a tiré les 400 coups, mais il n'a jamais dit je t'aime, il dit on n'est rien, c'est un tout. J'ai pas la tâche, pas le problème, mon papa, mon père, celui qui tutoie l'inconnu, celui qui mendie son salaire devant les portes du Super U. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant. Chante ta colère. Il dit je n'ai plus rien à gagner et je n'ai jamais rien eu à perdre. Il dit que je suis mal élevé quand je lui dis que je l'emmerde. Mon papa, mon père, qu'aurait mieux fait s'il avait su de se la faire en solitaire qu'un gosse avec une inconnue. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant. Chante ta colère, il dit tu seras un fils de paumé, ton héritage c'est ma connerie, et mieux vaut être un vrai raté que de faire semblant d'être réussi. Mon papa, mon père, celui qui cette nuit s'est battu pour un mot de trop dans un verre, pour affirmer son point de vue. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant. Chante ta colère dans un rare moment de tendresse, il me dit je suis fier de toi. Le jour où la vie me délaisse, tous les paumés se souviendront de moi. Mon papa, mon père,
celui qui boit à son insu, qui voit l'avenir dans son verre, une courte vie pleine d'imprévus. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras, en attendant chante ta colère. Mon papa, mon père, ce zéro extraordinaire, chien de la nuit, chat de gouttière, une crise de rire, une crise de nerfs. Mon père, mon papa, une grande gueule et un bon coup droit, un bon moment, une mauvaise foi, ta place en âge, prête-moi pour toi. Mon papa, mon père, celui que je n'ai pas beaucoup connu, celui qui est arrivé hier, qui part demain, bien entendu. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard, tu comprendras en attendant. Chante ta colère.
C'était les Ogres de Barbac avec le Daron sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Nous sommes en direct. La preuve, il est 12h31. Vous nous écoutez sur la bande FM 94.9, graphite.net en direct ou en différé grâce au podcast. Nous faisons un point sur l'actualité scientifique. C'est la rentrée de Graphite et c'est la rentrée de Biotine. Et je voulais un petit peu revenir sur ce qui s'était passé cet été. Il y en a qui se sont envoyés en l'air, mais je dirais dans le sens propre du terme, avec ces touristes spatiaux. Richard Branson, Jeff Bezos, ils sont touristes spatiaux, facile à dire, mais ce ne sont pas des astronautes, hein. C'est ce qu'en a décidé l'administration fédérale de l'aviation américaine. Le premier, Richard Branson, c'était le 11 juillet dernier, il a atteint l'altitude de 88 km à bord du vaisseau Unity, c'est sa société Virgin Galactic. On est 88 km en deçà de la ligne de Kármán, c'est 100 km d'altitude, c'est ce qui définit la limite entre l'atmosphère et l'espace. Ok, donc il a été en l'air, mais pas assez loin pour être astronaute. Le deuxième, Jeff Bezos, lui, il a bien dépassé cette limite. Il est allé à 107 km à bord de la capsule New Shepard de sa société Blue Origin. Et en tout, il y a 10 personnes qui ont participé à ces deux vols pour goûter quelques minutes en apesanteur, hein, comme le chantait si bien Calogero, mais pour obtenir les fameuses ailes qui officialisent son statut d'astronaute, eh bien, il faut aussi avoir participé au pilotage et avoir contribué à la sécurité du vol. C'est ce que stipule désormais justement l'administration fédérale de l'aviation américaine. C'est une nuance justement qui va pouvoir distinguer d'un côté un Neil Armstrong d'un Jeff Bezos. Donc là, il ne sera pas astronaute Jeff Bezos, mais c'est pas grave, hein, de toute façon. Lui, il s'est décerné ses propres ailes. Il les a décernées également aux participants de son vol. Mais en tout cas, voilà, c'était les 11 et les 20 juillet dernier. Vous avez peut-être suivi ça en direct parce que, je ne sais pas, les chaînes infos, comme elles n'avaient rien à parler à ce moment-là, à part du Tour de France, elles ont dit tiens, on va suivre un petit peu ces vols de touristes spatiaux. Et donc voilà, on avait suivi un petit peu ça en direct. Ça n'apportait pas grand-chose à la science. Là, on est sur un côté un petit peu plus mercantile. Mais bon, ça existe aussi, vous le savez très bien. Comme on parle d'espace, c'est assez intéressant justement d'avoir une idée de l'actualité de cet été, parce qu'il y a pas mal de choses, parce que la rentrée s'annonce assez palpitante pour cette rentrée de septembre-octobre, je vais y arriver. Il y a plusieurs événements dans le domaine de l'astronomie et de l'aérospatiale, ça va captiver les foules, on va pouvoir suivre ça. Déjà, il y a près d'une vingtaine de lancements qui devraient avoir lieu dans divers pas de tir à travers le monde. La Chine, les États-Unis, la Russie, ça va décoller de partout. Septembre, octobre seront aussi agrémentés de conjonctions de planètes et de pluies de météores. Comme ça, on aura la totale, c'est pas mal. La compagnie privée du milliardaire Elon Musk va réaliser deux lancements, notamment le 15 septembre, pour envoyer toute une armada de satellites. Alors, il y en a déjà 1700 qui gravitent déjà autour de la Terre, donc on n'est pas une poignée supplémentaire, vous voyez, donc on va en continuer. Et le 15 septembre, c'est une date historique pour la firme qui va lancer son premier équipage privé de la mission Inspiration 4. Ok, différence notable de cette expédition, c'est que on ne va pas s'amarrer à la Station Spatiale Internationale. Les astronautes, ils vont passer 72 heures en orbite. Ils vont pouvoir observer la Terre grâce à une petite fenêtre qui va remplacer le port d'amarrage. Et puis, il y a aussi une autre fournée de satellites qui devrait décoller début octobre. Et il y a également un lancement de 4 astronautes vers la Station Spatiale Internationale qui partira le 31 octobre. Du côté de la Chine, il y a 2 départs qui sont prévus pour la future station spatiale Tiangyong. Et donc, ça se fera également en septembre. Du côté des Russes, je vous ai dit, eux également, ils vont procéder à différents départs, 4 précisément, plutôt en octobre. Il y a plusieurs phénomènes astronomiques qui vont donc compléter tous ces lancements. Il y a des météores qui ont lieu en ce moment et qui pourra se terminer demain, qui vont être visibles dans la constellation du Cocher vers 3h30 du matin. Alors, si la nuit prochaine, vous ne savez pas quoi faire à 3h30 et vous avez une insomnie, eh bien, vous allez essayer de regarder les étoiles. Alors, si vous êtes dans une grosse agglomération, ça ne va pas être simple. Allez en campagne, loin de la pollution lumineuse, et vous pourrez voir donc cette pluie de météores au niveau de la constellation du Cocher. Si vous savez où c'est très bien. Si vous ne savez pas, eh bien, bon courage. Et du côté des planètes aussi, parce que quand même, les planètes, elles se disent, c'est la rentrée, nous aussi, on veut faire des choses. Il y a Mercure qui va atteindre son point le plus haut dans le ciel cette semaine. Et il y a Vénus également et la Lune qui seront en conjonction la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'on va les voir presque alignés, et ça peut être un très très beau spectacle. Et puis, il y a un dernier événement astronomique notable, c'est Mercure, qui va avoir une espèce d'élongation maximale. Ça va être le 24 octobre. Ce qui va être intéressant, c'est que elle va pouvoir être apparente, Mercure, quand on va au niveau du lever du soleil, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va regarder vers l'est, et Mercure va se lever avant le soleil. Donc, ça sera le 24 octobre. Ce sera un très beau spectacle, nous dit-on. Il faut souhaiter que le 24 octobre, il n'y ait pas de nuages. Comme ça, on pourra voir le lever de Mercure avant le lever de soleil. Moi, je trouve ça classe. Merci, merci le ciel de nous apporter un peu de, je sais pas, un peu de poésie dans ce monde de fous. À propos de monde de fous, je reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure avec les vaccins à ARN messager. Il y a un communiqué, la société Moderna. Bon, on connaît Moderna avec le vaccin justement contre le Covid. Eh bien, Moderna a communiqué il y a quelques jours sur le fait que la société de biotechnologie, donc Moderna, va bientôt débuter un essai clinique de phase 1 pour un vaccin à ARN messager anti-VIH. Moderna espère recruter 56 participants qui ne sont pas infectés par le rétrovirus pour tester 2 formules différentes. Les 2 formules contiennent justement un ARN messager qui va coder pour un morceau du virus du sida. Le premier code pour une protéine d'enveloppe qui a déjà été identifiée, qui est considérée comme étant la cible d'anticorps qui vont pouvoir être neutralisants. Le second, eh bien, va coder pour une autre protéine constitutive de l'enveloppe. Et donc, l'objectif, c'est de vérifier si l'injection de ce vaccin ARN messager en intramusculaire stimule bien l'immunité et de connaître également ses potentiels effets secondaires. Donc, cet essai clinique, qui est le premier en son genre, sera mené en collaboration avec plusieurs universités américaines. Rappelons donc qu'il n'existe actuellement aucun vaccin contre le virus du sida. Mais là, voilà, c'est un communiqué assez important de Moderna qui se prépare à tester donc un vaccin contre le sida et un vaccin à ARN messager. Donc, comme quoi, c'est une technologie quand même assez prometteuse. Je rappelle le principe de l'ARN messager. Alors, les généticiens purs et durs vont hurler s'ils m'écoutent, mais bon, tant pis, j'assume, on est dans un exercice de vulgarisation. L'ARN messager, on est donc sur du matériel génétique, qui l'ARN messager va pouvoir transporter une information. Mais je prends toujours cette analogie que les moins de 20 ans ne connaissent pas, c'était le fameux papier carbone. Quand on voulait faire une copie d'une feuille, on écrivait sur une feuille, on utilisait une deuxième feuille et entre les deux, on mettait un papier carbone pour pouvoir transmettre l'information de la feuille 1 à la feuille 2. Le papier carbone, c'est l'ARN messager. Le code génétique, c'est la feuille. C'est-à-dire que l'ADN, l'information génétique de nos cellules, c'est la feuille de papier. L'ARN messager, c'est la feuille de papier carbone. La feuille de papier carbone, déjà, elle est quand même assez fragile. On se souvient de cette feuille hyper légère qui se déchirait assez facilement. L'ARN messager, c'est la même chose. C'est quelque chose qui est totalement éphémère dans notre corps et que quand on nous transmet ce vaccin ARN messager, l'ARN messager reste quelques jours dans notre corps, mais de toute façon, il sera détruit parce qu'il ne peut pas résister comme ça. Et de toute façon, l'ARN messager ne peut pas modifier l'information au niveau de l'ADN. Donc, nous parler d'OGM ou autre, c'est totalement... c'est une véritable aberration scientifique. C'est comme si vous disiez que la feuille de papier carbone est en mesure de pouvoir modifier l'information qu'il y a sur la feuille de départ. Non, c'est l'inverse qui se fait. C'est la feuille qui vous donne l'information au papier carbone et pas l'inverse. Et que du coup, le papier carbone sert pour transmettre l'information que vous avez au départ sur la feuille numéro 1. Donc, ayez un petit peu cette image-là, des fois, si vous voulez expliquer à vos amis, à vos collègues, à vos enfants, le principe de l'ARN messager. C'est cette feuille de papier carbone qui transmet une information, mais qui ne pourra pas la modifier et qui, de toute façon, est assez, ne va pas résister longtemps, assez fragile. Voilà. Donc, voilà, c'est peut-être une image comme ça. Et donc, cette technologie-là d'ARN messager au niveau des vaccins, on comprend enfin avec cette communication de la société Moderna que c'est bien sûr une technologie d'avenir. Donc, il y a peut-être de l'espoir plutôt qu'il faudrait essayer d'avoir au lieu de la crainte. Allez, on va écouter un dernier titre dans cette émission. On va écouter, alors, j'ai découvert ça dans la playlist tout à l'heure, The Serge Gainsbourg Experience, avec notamment Initials BB. On va voir ce que ça donne. Je découvre en même temps que vous et on continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique sur Graphite. À tout de suite.
One night, whilst I was sombering in some English pub in the heart of London, poring over a copy of Monster Love by Pals, a vision came to me in the seltzer water. As the Emperor's medals shone at her waist in bronze and gold, the platinum calves in a cold circle, the mark of the slave on each finger. The inner shells, BB. The inner shells, BB. Right up to the top of her thighs, she's in boots, and it's like a chalice to her beauty. She isn't wearing anything apart from a little essence de guerlain in her hair.
The inner shells, BB. The inner shells, BB. At every movement you can hear the little silver bells at her wrist. Shaking her rattles, she moves forward and pronounces this word,
Almeria.
Superbe cette reprise. Initials BB de Gainsbourg avec The Serge Gainsbourg Experience sur l'antenne de Graphite, une chanson qui a plus de 50 ans ça, et une belle reprise très sympa qu'on découvre sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez justement Graphite sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet en direct ou en différé, parce que vous avez eu cette magnifique idée de récupérer les podcasts de toutes les émissions de Graphite, ou vous nous écoutez en direct sur le 94.9 sur la bande FM. C'est Biotine tous les samedis entre 12h et 13h, et depuis maintenant plus d'une décennie on parle de l'actualité scientifique, car la science ne s'arrête pas, et fort heureusement, toutes les semaines, on a des choses à évoquer dans cette émission. Je vois qu'il est déjà presque 12h47 et j'ai encore plein d'informations à vous dire, mais c'est pas grave. Je donnerai ce que je peux et on fera la suite la semaine prochaine. Je voulais quand même revenir évidemment sur ce qui a été annoncé cet été. C'est le dernier rapport du GIEC qui nous explique que tous les scénarios mènent inévitablement à la même conclusion. La température planétaire globale continuera d'augmenter jusqu'au moins la moitié de ce siècle. Comme ça s'est dit, c'est clair, depuis le temps qu'on en parle, eh bien ça se confirme. Le verdict, il est tranchant, il est sans appel. Si l'humanité ne coupe pas considérablement ses émissions de CO2 et de gaz à effet de serre dans les années à venir, le réchauffement climatique dépassera la barre des plus 2 degrés Celsius au cours du 21e siècle. Et au fur et à mesure que la Terre se réchauffe, eh bien les variations climatiques planétaires augmentent en nombre et en intensité. Les figures du rapport qu'on peut voir sur Internet, hein, ce rapport a été largement diffusé, ça nous donne des projections pour le futur. Et il y a donc des cartes qui représentent les changements de température dans 3 scénarios différents. Et les surfaces terrestres et les pôles chaufferont plus que les océans et les zones équatoriales. Donc l'Arctique monte en température 2 fois plus vite que la moyenne globale. Peu de fraîcheur est attendue au menu des années à venir, qui vont nous réserver des vagues de chaleur de plus en plus intenses et fréquentes. Les précipitations ne prévoient pas de varier dans le même sens partout, hein. Le projet d'augmenter à haute latitude, c'est-à-dire dans le Pacifique, au niveau équatorial et dans certaines zones de mousson, ce qui met ces endroits à un risque plus élevé d'inondation. D'un autre côté, au niveau tropical et subtropical, les scientifiques estiment que les pluies vont diminuer un peu. Cela va donc amener des sécheresses, d'autant plus accentuées par les températures plus chaudes sur Terre. Bref, il faut noter également que le cycle de l'eau et sa variabilité vont s'intensifier. La Terre risque de subir plus d'épisodes très humides et très secs, qui va accentuer d'un côté les sécheresses, de l'autre les inondations. Des inondations qui risquent de causer d'importants dégâts du sud jusqu'à l'est de l'Asie et en Afrique de l'Ouest à cause des précipitations de la mousson. Des événements climatiques extrêmes tels que des cyclones tropicaux menaceront aussi certains pays. Avec le réchauffement climatique, eh bien, le CO2 va s'accumuler davantage dans l'atmosphère parce que les puits de carbone océaniques et terrestres seront moins efficaces. Les puits de carbone, c'est un petit peu tous ces phénomènes qui vont permettre de capter le CO2. Mais au bout d'un moment, il y a une saturation, si bien que ce CO2, il reste dans l'atmosphère et il va s'accumuler. D'après les auteurs donc, de ce rapport, plusieurs des conséquences du réchauffement sont irréversibles pour des siècles ou même des millénaires. Parmi les victimes, donc les océans qui continueront à subir une acidification et également une variation globale de la température, les zones de neige et de glace peuvent difficilement être sauvés. Les glaciers continueront inévitablement de fondre durant des dizaines ou des centaines d'années. Les calottes glaciaires également. Les eaux vont continuer leur montée. Voilà. Je pense que si on n'a pas compris ce qui se passe, c'est soit on est sourd, soit on est un peu buté. Le rapport alarmant du GIEC, qui est sorti en plein milieu du mois d'août. Alors, franchement, on avait autre chose à faire le 9 août que lire ça. Peut-être que comment dire, les retombées médiatiques ont été un petit peu noyées pendant cette phase de vacances, malheureusement. Mais en tout cas, ça fait un point sur l'état du réchauffement climatique. Et on a compris que tous les scénarios qui nous sont proposés sont tous catastrophiques. Donc il va falloir se ressaisir vite, s'il est encore temps. Et c'est un petit peu la question que l'on se pose maintenant. Mais en tout cas, voilà, vous avez la possibilité de retrouver sur Internet, il y a pas mal de sites qui ont... déjà, vous pouvez lire, si vous êtes courageux, le rapport initial du GIEC. Mais en tout cas, il y a eu pas mal d'articles qui ont permis justement de pouvoir avoir une analyse assez intéressante de ce rapport du GIEC pour justement avoir une idée de la situation plus que catastrophique. On va également revenir sur cette annonce de 5 instituts de recherche en France, dont le CNRS et l'INSERM. Ils ont décidé, il y a quelques jours, un moratoire de 3 mois sur l'étude des prions. Les prions, ce sont des protéines, une classe de protéines infectieuses qui provoquent des pathologies cérébrales mortelles. Alors, la plus connue, la plus répandue chez l'homme, c'est la maladie de Creutzfeldt-Jakob. On en avait parlé il y a quelques années, on avait découvert cette maladie, notamment à l'époque du scandale de la maladie de la vache folle. Eh bien, ces 5 instituts de recherche en France ont décidé d'un moratoire de 3 mois sur ces prions. Cette mesure de précaution totalement inédite a été prise après qu'une maladie a été diagnostiquée chez une employée de laboratoire retraitée qui manipulait des prions dans le cadre de son travail. Et une enquête qui est en cours pour évaluer si elle aurait pu effectivement être infectée au sein de son ancien laboratoire. Mais, nous dit-on, seuls les analyses post-mortem pourront in fine caractériser la nature exacte du prion responsable. C'est quand même assez, je sais pas, c'est inquiétant, quoi. Dire, on peut pas faire grand-chose, faut qu'on attende que la personne meure pour pouvoir ensuite faire une dissection et vérifier quel était le prion responsable. Il n'empêche que il pourrait s'agir du second cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob qui touche un scientifique, parce qu'il y a eu une assistante ingénieure qui est décédée des suites de cette maladie en 2019. Elle avait 33 ans et elle s'était blessée en 2010 au cours d'une manipulation. Elle travaillait dans les mêmes conditions. Alors, si ce moratoire confirme justement qu'il y a un véritable risque, il faudra peut-être réviser les conditions de sécurité pour l'étude des prions. Mais voilà, c'est une annonce qui a été faite il y a quelques jours par 5 instituts de recherche français, dont le CNRS et l'INSERM, qui mettent en place justement un moratoire pour essayer de comprendre un petit peu, en savoir un petit peu plus, parce qu'il peut y avoir un véritable risque de transmission et de développement de ces maladies cérébrales. On va se quitter parce qu'il est 12h54 avec cette dernière information. Allez, on va parler un petit peu de technologie. Vous avez peut-être vu aussi ces vidéos de communication de Virgin Hyperloop qui a réussi son premier essai avec des passagers. C'était en novembre dernier, on en avait parlé dans cette émission. Virgin Hyperloop revient avec une nouvelle vidéo qui détaille le fonctionnement de son train subsonique. On découvre que l'entreprise a opté pour un design assez inédit, hein, parce que tout le système de traction n'est pas en dessous, mais au-dessus de la capsule. Je vous rappelle, c'est ce genre un petit peu de, comment dire, de gélule géante dans laquelle on sera installé à l'intérieur, et donc dans un tube. Et on va aller très très vite, et on pourra aller d'une distance d'un point A à un point B grâce à cette espèce de petite capsule. qui ne transporte pas beaucoup de monde, je crois. En tout cas, c'est ce que nous donnaient les premiers prototypes. En tout cas, une vidéo là, qui a été diffusée il y a quelques jours, que je vous invite à regarder, parce que Virgin Hyperloop affirme que son système de lévitation et de propulsion magnétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement, c'est ça qui est, enfin, la technologie est totalement fascinante, eh bien, ce système sera 10 fois plus efficace que certains trains qui sont actuellement en circulation et qui sont les plus rapides. Les navettes circulent donc dans un tube quasiment sous vide afin d'éliminer presque totalement le frottement de l'air. L'entreprise affirme que sa solution de transport pourra acheminer, donc ce sont les communiqués, le communiqué de presse hein, là, que je vous donne, 50 000 passagers à l'heure et une vitesse de plus de 1 000 km/h sans la moindre émission polluante, bien sûr, selon le simulateur que l'on trouve sur le site internet de Virgin Hyperloop, eh bien, un trajet entre Paris et Marseille ne prendrait que 49 minutes. C'est vrai que quand on voit ça, on se dit que c'était quand même assez formidable. 49 minutes Paris-Marseille, alors que des fois, quand on fait Paris-Porte de la Chapelle et Paris-Porte de Bagnolet, il nous faut 49 minutes. Là, Paris-Marseille sera la même chose. Ça repose sur des batteries. C'est un système 100% électrique qui pourrait être alimenté par des panneaux solaires installés tout au long de la partie supérieure du tube. Selon la configuration du terrain, une ligne Hyperloop pourrait alterner les parties aériennes et souterraines avec une emprise au sol comprise à peu près jusqu'à 24 mètres. C'est moins que les TGV classiques hein, où il y a une emprise au sol qui va jusqu'à 30 mètres. Les navettes de Virgin Hyperloop pourront accueillir jusqu'à 28 passagers. Voilà, c'est l'information que j'ai cherchée tout à l'heure. 28 passagers dans ces capsules. Elles circuleront en convoi, mais ne seront pas reliées physiquement comme les rames d'un train, ce qui est censé offrir plus de souplesse pour la desserte de différentes stations. La facilité de déploiement que vante l'entreprise dans ce communiqué pour l'instant toute théorique, rien ne démontre concrètement que la construction et le fonctionnement d'une ligne Hyperloop soient vraiment plus économiques, plus écologiques également qu'une ligne ferroviaire classique. Hein. Là, on est bien sûr dans de la communication d'entreprise. Rappelons en fait que cette idée d'Hyperloop, elle est assez ancienne. Elle est née dans l'esprit du physicien et ingénieur Robert Goddard qui l'avait théorisé il y a plus de 100 ans, c'était en 1904. Et Elon Musk a donc relancé le concept en 2012 en initiant un projet open source que plusieurs entreprises et groupes d'étudiants ont pu reprendre à leur compte. Et on a donc Hyperloop, TT et Transpod qui sont les deux principaux concurrents de Virgin Hyperloop. Ils planchent donc tous sur un train subsonique depuis quelques années. Il y a un centre d'essai installé à Las Vegas où il y a eu plus de 500 tests qui ont été réalisés. L'entreprise vise une première exploitation commerciale à l'horizon 2027. C'est quand même assez proche, je vais dire. 2027, c'est demain. On va avoir ces capsules géantes qui en vont pouvoir commencer à être déployées en 2027. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Inde font partie des pays qui se positionnent pour être les premiers à accueillir justement ces lignes Hyperloop. Donc voilà, c'est dévoilé dans cette vidéo que je vous incite à regarder et on peut voir donc le fonctionnement de ces capsules qui vont relier les villes à plus de 1 000 km/h. On ne se rend même pas compte de l'effet que ça peut faire, mais voilà, vous voyez, on va pouvoir... C'est ça aussi la science et la technologie, ça avance et ça avance très très vite. On se souvient qu'on a évoqué ça en 2021 et que dans quelques années, eh bien, peut-être que nous ferons une émission de Biotine en direct d'une capsule Hyperloop, allez savoir. On démarrera l'émission à Paris et on la terminera à Marseille. C'est pas beau ça. Allez, il est 12h59, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de votre fidélité retrouvée pour cette nouvelle saison de Biotine sur l'antenne de Graphite. On se retrouve samedi prochain à 12h. On continuera à parler de l'actualité scientifique et spatiale parce que j'ai pas eu le temps de vous parler de ce blob qui est arrivé dans l'espace. Il a débarqué le 12 août dans la station spatiale internationale international et c'est Thomas Pesquet qui l'a accueilli. On va en parler la semaine prochaine et on parlera également de la NASA qui recrute pour une mission de simulation d'une année sur Mars. Donc si vous avez une année sabbatique, eh bien vous pouvez peut-être participer à cette mission de la NASA. On verra ça entre autres la semaine prochaine à 12h sur l'antenne de Graphite. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Merci à Léo pour l'aspect technique, pour la prise en charge justement. Ça m'a permis de pouvoir prendre en charge cette nouvelle console et ce nouveau studio. On se retrouve samedi prochain. Bonne journée à tous. Au revoir.